France Inter, le 18-20.
Une semaine en France en compagnie d'un homme qui passe sa vie à se demander ce que vous pensez, et pour cause. Brice Teinturier est sondeur, il fore en profondeur afin de tenter de comprendre quelles sont les attentes des Français, et pas uniquement en matière politique, même si c'est sa spécialité. À chaque scrutin, on le voit débarquer sur les chaînes du service public avec ses chiffres et ses tableaux dimanche. Le politologue ne dérogera pas à la règle en espérant avoir vu juste un vrai défi en ces temps tourmentés. Brice Teinturier nous dira d'ailleurs comment il travaille avec ses équipes. Quelles sont les règles du métier alors que certains voient dans les sondages une entreprise de manipulation? Il nous dira également comment il en est arrivé à travailler pour l'un des plus grands instituts présents dans de très nombreux pays. Mais avant cela, on fera le point sur les régionales et les départementales dont le premier tour a lieu dimanche. On s'interrogera notamment sur les enjeux de ces élections et sur l'impact de la pandémie sur ce double scrutin qui fait figure de tour de chauffe pour la présidentielle. Également au sommaire de cette émission, préparée par Mathieu Bellini et réalisée par Stéphane Combe, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, et les bonnes ondes de Julie Paco. Ce soir, après l'arrêt cardiaque du Danois Eriksen en plein match de l'Euro de football, nous irons voir ceux qui ont décidé de se former au geste qui sauve.
Ah, venez, venez. Ah, ça fait mal.
Ça saigne, ça s'arrête pas.
Je fais un pansement compressif, qui est plutôt pas mal fait. T'as eu du mal au moment du nœud, bon après tu t'es rattrapé. Et puis après, y a l'alerte au secours.
Voilà, les premiers secours, ce sera juste avant 19h. Ensuite, le journal de Charlotte Piré. À 19h20, au téléphone sonne, vous pourrez dialoguer avec Philippe Gloeggen, le cofondateur du guide du routard qui vient de lancer un trimestriel, le Routard Magazine. Ce sera l'occasion d'évoquer vos souvenirs de voyage, mais aussi de poser vos questions sur la façon dont se fabrique le guide. Alors n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes, à Adèle Domas qui lit vos mails, ainsi qu'à Philippe Duclos, Fabrice Desmaz et Florent Bujon qui sont en régie.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir et bienvenue Brice Teinturier.
Bonsoir.
Directeur général délégué de l'Institut Ipsos, partenaire des antennes du service public, donc Radio France. Je vous remercie vraiment d'être venu parce que je crois que vous devez avoir la tête sous l'eau.
On a un peu la tête sous l'eau, mais c'est un plaisir.
Avec tous ces scrutins. Les élections, c'est un temps fort pour vous, indéniablement.
Les élections, c'est toujours un temps fort, c'est beaucoup d'intensité, beaucoup d'organisation, de travail, beaucoup de plaisir aussi, d'excitation. On se demande évidemment ce qui va sortir du chaudron français dimanche soir, si ce sera relativement proche ou pas de ce que nous avons mesuré. Et puis, c'est toujours intéressant parce que c'est un moment de cristallisation de ce qui se passe dans le pays en réalité.
Qu'est-ce qu'on peut dire de cette campagne qui s'achève ce soir? Est-ce qu'elle a eu lieu dans des conditions satisfaisantes? Il y a la pandémie. Est-ce que les Français ont la tête à ça ou ils ont la tête ailleurs?
Non, les Français ont absolument la tête à autre chose que les élections régionales et on devrait normalement dimanche avoir un record absolument historique d'abstention. On l'évalue autour de 60%. Ce serait 10 points de plus que ce qu'on avait eu en 2015 et ce serait supérieur même à 2010 où on était à 53,7% d'abstention. Donc on est plutôt sur cette idée-là. Ça se comprend assez bien. Les Français sont en sortie de pandémie. Ils pensent à autre chose. Ils pensent au plaisir retrouvé de pouvoir sortir. Ils pensent aux vacances. Ils pensent à leur travail. Et le scrutin est aussi un peu difficile à lire sur les enjeux. Il est couplé à des départementales, ce qui crée plutôt de la confusion entre les deux scrutins. Et puis,
parce que c'est ce que j'allais vous dire, les régionales et les départementales, c'est aussi la vie quotidienne. Ce sont des sujets très, très concernants. Donc pourquoi autant d'abstention?
Parce que les Français ont le sentiment que ces élections, malgré tout, ne vont pas changer grandement leur situation personnelle, y compris dans leur région, à tort ou à raison, parce que les domaines de compétences, et donc plutôt à tort, les domaines de compétences des régions et des départements sont extrêmement importants, mais ils ne se disent pas qu'il y a une controverse importante à trancher, ils n'ont pas le sentiment que leur vote est extrêmement utile. La proximité également avec l'élection présidentielle à venir peut donner le sentiment que le vrai rendez-vous, il est au moment de la présidentielle, et du coup, tout cela contribue malheureusement à éloigner les Français de ce scrutin, de ces deux scrutins, et à préparer une abstention tout à fait historique.
Abstention qui concernerait tout le monde, toutes les catégories, les hommes, les femmes?
Alors, à ce niveau d'abstention, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cela déforme ce que nous avions traditionnellement. On retrouve, comme traditionnellement, une abstention qui est très différente suivant l'âge. Ce sont les jeunes qui vont s'abstenir massivement et les plus âgés s'abstiennent un peu moins. Mais même chez les plus âgés, même chez les plus de 60 ans, on aurait 40% d'abstentionnistes. Autre particularité, cette fois-ci très forte, on a traditionnellement une vraie différence de participation entre entre les ouvriers et les employés qui s'abstiennent beaucoup et les cadres supérieurs, par exemple, qui s'abstiennent moins, eh bien là, les choses sont très lissées. On a une poussée de l'abstention, notamment chez les cadres moyens et les cadres supérieurs, qui fait que cette abstention, en se généralisant, se lisse et concerne toutes les catégories de la population. Le diplôme aussi, qui était une variable assez discriminante, les moins. Et par territoire, on dit souvent que dans le rural, on vote davantage que dans les grandes métropoles. Et c'est vrai, sur beaucoup de scrutins, c'est vrai. Là, cela semble beaucoup moins vrai. On s'achemine véritablement vers une lame de fond de l'abstention si on est entre, on va dire, allez, 58% et 62% d'abstention, mais en tous les cas, sur quelque chose qui pourrait être réellement historique.
C'est-à-dire encore plus qu'aux municipales qui pourtant ont eu lieu, alors là, pour le coup, au tout début de la pandémie, en plein dans la pandémie même.
Absolument, et certains avaient dit, mais c'est uniquement à cause de la pandémie, on avait eu 20 points de plus d'abstention lors des dernières municipales que des municipales précédentes. Moi, j'avais essayé de dire, bien sûr, qu'il y a un facteur lié à la pandémie, mais il n'y a pas que ça. Il y a véritablement de plus en plus, et depuis longtemps, dans ce pays, un détachement progressivement à l'égard de la scène électorale qu'il faut analyser, qu'il faut comprendre, il traduit quelque chose. Ce n'est pas forcément un détachement à l'égard de la politique, même si de plus en plus de Français nous disent qu'ils sont déçus, voire qu'elle les dégoûte. Mais en tous les cas, vis-à-vis du vote comme outil d'expression, là, il y a véritablement un fossé qui se creuse.
Sur cette crise, on y reviendra, Brice Teinturier. Encore un mot concernant donc ce double scrutin régional-départemental. Pourquoi a-t-il été question essentiellement des régionales? Alors, on a sans doute une part de responsabilité, nous les médias, mais est-ce que ça veut dire que c'est le mode de scrutin, la proportionnelle, qui favorise le côté très politique de l'élection?
Oui, il y a ça. Il y a aussi le fait que vous avez pour les régionales des têtes de liste qui sont souvent des figures nationales. Donc c'est important parce que, a fortiori, avec la présidentielle qui arrive, savoir si Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et d'autres vont être réélus ou pas, ou et dans quelle proportion cela permet d'avancer sur le scrutin majeur qui est la présidentielle. Je crois aussi qu'il y a une difficulté plus grande, tout simplement, à analyser les départementales. Ce sont beaucoup de cantons, c'est un scrutin beaucoup plus complexe, 2000 cantons. Et finalement, être sur 13 régions, c'est parfois plus simple, ne serait-ce que pour être en France métropolitaine. Et puis, il y a aussi des rapports de force politiques qui sont plus aisément identifiables dès le soir du premier tour des régionales. On peut consolider ce qui sortira région par région et regarder, eh bien, que donne le Rassemblement National, que donnent les LR. Et c'est assez parlant, c'est assez symbolique et visuel.
Alors, 13 régions, dont 12 dans l'Hexagone, Brice Teinturier. On va essayer de passer globalement en revue vous avez fait un certain nombre de catégories pour y voir un petit peu plus clair, parce que c'est pas toujours simple. Les régions où la situation vous semble claire, allez, on va dire ça comme ça. Alors, Ipsos a fait des projections.
Oui, on a fait un certain nombre d'enquêtes dans toutes ces régions. Il y en a qui sont quand même plus claires que d'autres, parce que la prime au sortant est telle, et les rapports de force politique sont tels, que normalement il ne devrait pas y avoir d'enjeux bousculés. Ce sont l'Île-de-France, tout à fait. L'Île-de-France, les Hauts-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes aussi, le président actuel Laurent Wauquiez devrait bien s'en sortir. En Occitanie, Carole Delgas, une région de gauche, est aussi sur un socle très très solide. Et en Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset également ne devrait pas avoir trop de problèmes. Dire cela n'est pas anticiper sur ce que doit être le vote des Français, bien évidemment. Ce sont des intentions, le suffrage fera loi. Mais dans ces cinq régions, on a le sentiment que les choses sont à peu près claires.
Et que c'est plutôt la prime au sortant.
C'est la prime au sortant, qu'il ne devrait pas y avoir, a priori en tous les cas, de bascule ou de mouvement extrêmement profond. Il y en a trois qui sont claires aussi, mais quand même déjà un peu plus incertaines. Ce sont la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Alors en Normandie, les rapports de force, là aussi, devraient faire qu'Hervé Morin, normalement, devrait pouvoir être élu. En Bourgogne-Franche-Comté, qui était une région qui, en 2015, était sur le fil du rasoir avec une possibilité de bascule au Rassemblement National, si l'on en croit nos rapports de force actuels et si les reports se font bien dans l'entre-deux-tours, c'est plus incertain, mais malgré tout, l'actuelle présidente pourrait s'en sortir.
Marie
et c'est un
Guy
peu
Buffet.
La même chose, Marie-Guy de Buffet. Et c'est un peu la même chose dans le Grand Est avec Rottner, l'actuel président LR, qui devrait, malgré la pression du Rassemblement National, aussi pouvoir s'en sortir. Et puis, il y a trois ou quatre régions qui sont très incertaines. C'est évidemment la région PACA, où nous avons tous mesuré un fort niveau en faveur de Thierry Mariani, donc du Rassemblement National, et des hypothèses de second tour, mais qui sont plus fragiles, qui dépendront du comportement aussi à l'issue du premier tour, mais qui pourraient donner une victoire, quel que soit le cas de figure, à Thierry Mariani. Dans les Pays de la Loire, c'est une région dont on parle peu, mais là aussi vous avez beaucoup de listes en présence qui peuvent franchir la barre des 10%, être au second tour, donc une situation assez confuse, assez incertaine en tous les cas. Dans le Centre-Val de Loire, qui était une région qui nous avait donné du fil à retordre la dernière fois, parce qu'elle était également, elle se jouait à peu de choses, et bien là on peut avoir des rapports aussi serrés et en fonction des alliances, une bascule ou pas en faveur, peut-être de La République En Marche, si la liste de Marc Fesneau arriver en tête, peut-être en faveur des LR, mais avec un Rassemblement National qui est aussi un niveau élevé. Et puis en Bretagne, c'est un peu moins incertain, mais il y a beaucoup de listes. Et en fonction, là aussi, de la succession, parce que c'est ça qui est en jeu, de Le Drian et des alliances qui pourront être, la Bretagne, a priori, ne devrait pas basculer, mais regardons ça de près, parce que la situation est quand même extrêmement complexe aussi en Bretagne, avec aussi les écologistes forts.
On va surveiller ça de très près, et on étudiera tout ça dimanche soir. Est-ce qu'il faut s'attendre à une poussée du Rassemblement National dimanche?
Alors une poussée, non, parce que il faut vraiment l'avoir à l'esprit. En 2015, ils avaient obtenu un score absolument historique, 28,4% en France métropolitaine, 27,7% en France entière. Donc refaire un tel score serait extrêmement difficile. On s'attend plutôt à un Rassemblement National dans la zone des 25%, 25, 26, etc. Mais en tous les cas, moindre qu'en 2015, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne serait pas en capacité éventuellement de s'emparer d'une ou de deux régions. Là, il faudra vraiment attendre évidemment le second tour. Mais même si
pas possible, Grand Est éventuellement, Bourgogne-Franche-Comté.
Oui, toutes ces régions où le RN est très puissant, Centre-Val de Loire aussi, il peut y avoir des possibilités, mais a priori, nous nous attendons plutôt à un bon score du Rassemblement National, même s'il est inférieur à celui de 2015, et le véritable enjeu sera de savoir s'il franchit une marche supplémentaire en faisant basculer une région en sa faveur, ce qui là serait un phénomène évidemment décisif dans notre pays et pour l'histoire de ce parti et pour la suite de la présidentielle.
Et on a entendu aujourd'hui Marine Le Pen qui a une fois de plus lancé un appel aux sympathisants LR. Ça va se jouer, ça évidemment aussi, c'est un des grands enjeux de ce scrutin, la porosité entre les deux électorats.
C'est très clairement l'enjeu, c'est la stratégie de Marine Le Pen depuis maintenant assez longtemps. Elle cible, non sans succès, une partie des électeurs LR qui sont effectivement sensibles à la fois au discours qu'elle tient sur ces sujets traditionnels, immigration, insécurité, etc., etc. Mais également, elle cherche à les rassurer sur l'économie. On ne parle plus de la sortie de l'euro. Elle dit qu'il faudra rembourser la dette. Et donc, il y a, on le voit en région PACA, il y a une érosion des votes LR, des électeurs de François Fillon de la présidentielle, qui vont dans des proportions importantes sur la liste menée par Mariani, le candidat du Rassemblement National.
Que dire de la stratégie de La République En Marche sur ces élections, Brice Teinturier, ces alliances à géométrie variable? Comment on interprète tout ça?
Alors, les alliances, elles vont venir au soir du premier tour.
On a vu déjà qu'il y avait un rapprochement avec Renaud Muselier.
Mais il y a eu
effectivement. En PACA, alors que dans les Hauts-de-France, c'est le contraire. On se présente contre la liste LR.
Tout à fait. Globalement, la République En Marche, qui n'a pas d'implantation locale forte, cherche malgré tout à s'implanter, cherche à peser sur le terrain, est présente dans 11 régions sur 12. Il n'y a qu'en région PACA qu'elle n'est pas présente au profit de Renaud Muselier. Donc elle cherche à peser et elle cherche à avoir des listes qui franchiront la barre des 10% pour évidemment être une forme d'arbitre au second tour, notamment dans les régions où il y aura une menace du Rassemblement National. Et en ce sens, elle pourrait s'allier ensuite soit sous forme de fusion, soit sous forme d'appel, soit sous forme de retrait ou de fusion technique, il y a plusieurs schémas possibles, mais tantôt avec les LR, tantôt aussi avec les socialistes, et c'est ça qui lui redonnerait un petit peu plus de force que son résultat stricto sensu, qui au niveau national devrait être autour de 13%, ce qui est quand même relativement faible. L'écart entre le candidat à la présidentielle Macron et ce que les listes LaREM feront au régional est extrêmement important.
Pour la gauche, quel est l'enjeu? Se compter entre les écologistes, les socialistes, les insoumis, pour savoir un petit peu quel est le rapport de force?
Pour la gauche, il y a d'abord un enjeu qui est de savoir combien elle pèse dans ce pays. Parce que nos enquêtes montrent qu'elle est plutôt faible dans la perspective de la présidentielle, mais les régionales, même s'il faudra faire attention avec la limite d'une abstention forte, nous permettront de voir ce qu'elle pèse réellement. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que pour la gauche, il faut évidemment ne pas perdre l'une des 5 régions qu'elle détient. Sinon, on dira que son implantation locale, qui est ce qui résiste encore, est entamée. Et puis, on doit également regarder entre les listes PS, les listes écologistes, comment la compétition s'opère, en faveur de qui. Il y a là aussi des effets d'offre électorale, parce que pour les régionales, ce qui n'est pas forcément le cas pour les départementales, mais pour les régionales, vous avez un peu plus de listes qui sont menées par des écologistes, donc qui seront comptabilisées écologistes, mais ce sont des listes uniques avec des socialistes, et donc dans l'affichage, dans le décompte, ça profitera un peu mécaniquement aux écologistes. Mais c'est un point important dans la compétition écologiste, PS notamment.
Et on parlera aussi dans un instant des thèmes de campagne qui n'ont pas été forcément ceux liés aux régions et aux départements. Mais on va passer d'abord à l'actualité de la semaine grâce à ce mix qui a été mis en onde par Anne-Cécile Perrin. À la une cette semaine, la pandémie qui marque le pas au point que mercredi, le Premier ministre Jean Castex s'est invité à la sortie du Conseil des ministres.
Nous allons lever l'obligation générale du port du masque en extérieur.
C'est comme si je prenais une nouvelle bouffée d'air. Ça y est, nouvelle vie commence, c'est bon.
Deuxième évolution, le couvre-feu à 23 heures cessera de s'appliquer à compter de ce dimanche.
Annonce surprise pour des restrictions sanitaires de plus en plus difficiles à faire respecter, surtout avec des dérogations ciblées, comme à Roland-Garros.
En accord avec les autorités nationales, le match va pouvoir aller en son terme en votre présence.
Merci Macron, dit le public pendant que de jeunes fêtards se font disperser par les forces de l'ordre non loin de là. Une situation devenue intenable avec en plus l'Euro de football.
C'est très très bien, ça permettra de continuer à diffuser les matchs pendant l'Euro, à amener du monde. C'est parfait, on va faire la fête alors. Et vive l'Euro et la France surtout.
La France qui s'impose d'entrée de jeu contre l'Allemagne à Munich 1-0.
Et but !
Le petit 1-0, nous on considère qu'on a vu 3 buts, les buts étaient très beaux, surtout les deux qui ont été refusés.
Pas de genou à terre finalement pour les Bleus, comme il l'avait laissé entendre le capitaine Hugo Lloris.
On part du principe que si on doit le faire, on doit tous le faire. Voilà, ça veut pas dire qu'on soutient pas la cause.
J'espère que leur décision de ne pas le faire n'est pas liée à cette affreuse polémique.
L'insoumis Adrien Quatennens fait référence à la polémique qui a vu la droite et l'extrême droite se rejoindre sur ce terrain-là aussi. Ainsi Thierry Mariani, tête de liste RN en PACA, et David Lisnard, maire LR de Cannes.
Black Lives Matter, c'est un drame. Mais c'est un drame qui s'est passé aux États-Unis. Et puis moi, je suis attaché à la neutralité du sport.
Le genou à terre, c'est un geste politique, c'est un geste d'extrême gauche.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, appréciera.
Pourquoi est-ce que nous serions la seule nation à condamner son équipe parce qu'elle lutte contre les discriminations ?
En avant, s'il vous plaît ! Samedi, des marches pour la liberté dans plusieurs villes pour dire non à l'extrême droite.
Tout pour faire opposition au Front National. Moi, je suis née sous Pétain. J'ai pas envie de mourir sous Le Pen.
La République en marche seule contre tous cette semaine à l'Assemblée, alors que l'opposition demande que l'allocation adulte handicapé soit versée sans tenir compte des ressources du conjoint.
Madame la ministre, faut-il que les adultes handicapés renoncent à être en couple pour ne pas perdre leur allocation ? Allez-vous accepter cette proposition ?
Merci. La parole est à madame Sophie Cluzel.
Je le dis et je le réaffirme, la déconjugalisation de l'AAH remettrait en cause le principe même sur lequel est bâti notre système de solidarité.
Vous comportez comme des marcheurs qui marchent sur les débris de la démocratie. Et vous êtes en fait aujourd'hui de porter une atteinte très grave à la démocratie parlementaire et j'en ai honte pour vous.
Tu relâches bien ton épaule, ça c'est très important pour la vaccination. Voilà, super.
Vaccination ouverte aux adolescents depuis cette semaine.
Donc tu vas pouvoir vaquer à tes occupations en sécurité pour toi et pour ta famille.
Ça va permettre à tout le monde d'être plus tranquille pour éviter la propagation du Covid.
Emmanuel Macron, pas mécontent d'avoir gagné son pari et d'annoncer de bonnes nouvelles.
Je pense qu'on ne peut que se féliciter que nous ayons eu la bonne stratégie.
Xavier Bertrand.
Je lui remercie le premier tour des élections régionales. Pas dupe, je suis pas dupe.
Je n'interfère pas dans cette campagne, je continue simplement le travail pour la nation.
Il est en campagne, qu'il le dise, qu'il le reconnaisse. Ça sera plus clair, ça sera plus respectueux des Français.
réalisation Anne-Cécile Perrin. Une semaine en France en compagnie du politologue Brestin Thurier, directeur général délégué d'Ipsos. Il n'a pas tort, Xavier Bertrand, quand il dit qu'Emmanuel Macron est déjà en campagne.
Oui, Emmanuel Macron, d'une certaine façon, est en campagne quasi permanente. Il prend le pouls de la population. C'est à la fois logique pour tout président de la République, mais c'est bien évidemment dans un contexte préélectoral, non seulement les régionales, même s'il s'en défend, mais également la présidentielle. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas une surprise. Nicolas Sarkozy avait fait la même chose, et François Hollande également. Donc c'est un grand classique, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de bien. Mais incontestablement, les présidents de la République, plus on se rapproche de leur possible réélection, eh bien, puis ils se remettent à l'écoute des Français.
Sur la gestion de la crise du Covid, c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait fait le pari que les choses allaient s'arranger. De ce point de vue-là, il a gagné. Que dire de sa popularité dans ce domaine ?
Alors, sa popularité, elle est assez élevée puisqu'il est à 40-41% de jugements favorables. C'est bien plus que ce qu'avaient et François Hollande et Nicolas Sarkozy à 4 ans de leur mandat. Et puis, vous avez quelque chose de tout à fait stupéfiant là qui s'est produit dans les tout derniers jours. C'est que aujourd'hui, 55% des Français sont satisfaits de la façon dont le gouvernement gère la crise sanitaire, le Covid-19. 55%, c'est juste 15 points de plus que ce qu'on avait il y a encore 3 semaines. Donc, on est véritablement dans un moment où les Français sont en train de revisiter leur grille de lecture de cette crise à l'aune de l'instant présent, qui est un instant où les possibles se réouvrent, où on ressort, où on commence à abandonner le masque, évidemment dans l'espace public, et on espère ensuite dans des espaces de plus en plus privés. Et j'ai toujours dit que la grille de lecture des Français n'était pas cristallisée sur la façon dont le gouvernement avait géré cette crise, que les masques avaient été un épisode marquant, et on avait des critiques extrêmement fortes, mais que cela pouvait bouger en fonction du moment de sortie. Eh bien, ça bouge. Et aujourd'hui, on a une majorité, les choses se sont retournées très très vite, une majorité de Français qui se déclarent satisfaits.
Voilà, une majorité de Français satisfaits. Quand même quelques petites tensions, quelques petites crispations lors des déplacements du chef de l'État. L'autre jour, donc, il y a eu cette gifle atteint l'Ermitage dans la Drôme, un événement que le président a tenu à relativiser, à minimiser.
D'abord, il faut relativiser et ne rien banaliser. Quand je dis relativiser, c'est pas grave de recevoir une gifle quand on va vers une foule et pour saluer, il y avait trois dames qui étaient là, qui attendaient depuis très longtemps. Je pense que ça ne dit pas quelque chose de plus profond qu'un acte isolé, d'abord. Et il y a eu des moments de très forte tension dans notre pays, de violence, que j'ai eu à vivre comme président au moment de la crise des Gilets jaunes. La société n'est pas dans cet état-là aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut pas faire dire à cet acte autre chose qu'un acte isolé, du fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui, dans la société, peuvent être violents à un moment donné ou à un autre.
Voilà, Emmanuel Macron a donc relativisé, mais hier, lors de son déplacement en Picardie, dans la Somme précisément, alors qu'il visitait une école, un enfant, un tout petit, l'a interpellé en lui disant « vous allez entendre, tendez bien l'oreille, on n'entend pas très bien ».
Ça va la classe, là, t'es vite
fait. Ah bah oui, ça va, c'est pas grave, hein. C'est pas bien, hein.
Ça va la claque, tu t'es fait, allez, on réécoute, c'est vrai que c'est pas très clair.
Ça va la classe, là, t'es vite
fait. Ah bah oui, ça va, c'est pas grave, hein. C'est pas bien, hein.
Voilà, Emmanuel Macron s'attendait sans doute pas à ça, Brice Tinturier, mais les enfants, ils ont compris que c'était grave quand même.
Mais je crois que les enfants ont compris qu'il y avait une dimension quand même plus importante que ce que le chef de l'État cherche à en dire ou en faire. Et cette dimension, c'est la volonté d'humilier d'abord le chef de l'État. La gifle, c'est une humiliation. C'est très différent d'un attentat, comme il y en a déjà eu, à l'égard des chefs d'État, y compris en France. Et cela traduit quand même quelque chose que je crois assez profond maintenant dans notre pays, qui est la désacralisation de la fonction présidentielle, l'irrespect de plus en plus marqué vis-à-vis des élus, les élus de proximité, les élus municipaux, régionaux, etc., mais également le chef de l'État. Et donc il y a là quelque chose, moi, que j'ai du mal à relativiser à ce point. Bien sûr que ça ne veut pas dire que l'ensemble du corps électoral, que l'ensemble des Français est dans une attitude violente, agressive à l'égard des présidents de la République ou du personnel politique. Mais malgré tout, cela traduit une évolution de la relation entre les représentants et les représentés, et c'est sur un mode de dégradation. Et on voit bien que des barres hier tombe de plus en plus souvent, et y compris pour les plus hauts échelons de ce pays.
D'ailleurs, il fait référence au Gilet jaune, hein, qui a été quand même un épisode très particulier. Brice Tinturier, vous, en 2017, vous avez publié un livre « Plus rien à faire, plus rien à foutre, la vraie crise de la démocratie ». Vous avez parlé des prafistes, ceux qui décrochent. Comment vous analysez justement les Gilets jaunes par rapport à ça ? Ça a été une forme de retour à la politique, d'une autre façon ?
les Gilets jaunes, d'une certaine façon, ce sont des prafistes, mais qui sont descendus dans la rue. Moi, ce que j'avais voulu analyser, et ce sur quoi j'avais voulu attirer l'attention en 2017, c'était sur un phénomène que je croyais très profond, qui est très profond et en augmentation, qui n'est pas le phénomène des extrêmes. Le Rassemblement National, ça a été beaucoup étudié. Mais il y avait de plus en plus de Français très attachés à la politique, très en attente de la politique. Pas, j'ai envie de dire, des gueulards non plus. Des gens, au contraire, qui progressivement se détachaient, silencieusement, parce qu'ils étaient déçus, voire dégoûtés. Parce qu'il y avait à leurs yeux une crise d'exemplarité dans le comportement aussi des élus. Pas seulement des élus, ça valait pour des sportifs, des chefs d'entreprise, etc. Parce qu'il y avait aussi des causes proprement politiques, hein, des alternances qui avaient vidé de sa substance la possible réactivation d'un résultat positif. Donc tout ça concourait à cet éloignement progressif. Et je le crois très dangereux, parce que la démocratie, elle peut être combattue, ou elle peut faire l'objet tout simplement d'une sorte de détachement, comme dans un divorce, où quand vous envoyez la vaisselle à la figure, ben ça veut dire qu'il y a de la relation, mais quand vous parlez même plus, que vous vous détournez, c'est vraiment que le couple est mort. Et c'est là-dessus que j'avais travaillé. Alors les prafistes, j'ai été surpris, comme tout le monde, il faut pas raconter d'histoire a posteriori. C'est l'événement, moi je trouve, majeur de ces dernières années. Il y a une violence extrêmement forte, il y avait aussi une composante sur la démocratie importante, puisqu'ils ne voulaient pas avoir de représentants, et c'est ce qui a nuit également à ce mouvement.
Mais ils voulaient les référendums.
Voilà ce que j'avais écrit sur la nécessité de retremper la démocratie avec beaucoup plus de participation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une crise du résultat, ça, on en a beaucoup parlé depuis le début des années 2000, il y a véritablement ce sentiment d'être mal représenté. Mais les Gilets jaunes, d'une certaine façon, ce sont mes prafistes qui, simplement, au lieu de rester chez eux, pour beaucoup de raisons, ils ont été étranglés à un moment donné par un certain nombre de mesures, il y a la bipolarisation du marché du travail aussi qui est terrible et qui les broyait, eh bien ils sont descendus sur les ronds-points. Et à un moment donné, ils ont dit ça suffit, et ils se sont exprimés, donc c'est un retour du politique une façon de faire qui pouvait être extrêmement violente, hein. Il y avait de la violence aussi, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, mais c'est le prolongement ou le retour des prafistes en mode d'action.
Et attention, c'est ce que vous dites, plus les urnes se vident, plus la violence augmente. On va poursuivre la réflexion, mais d'abord un petit peu de musique.
Derrière leur écran, leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran d'arrêt, visage pâle, c'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant? Ah, que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant, très mal. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand derrière mon écran, et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Grand président, sanglot de reptile, s'adresse aux sans-dents. Rien à l'abri dans son palais d'argile, avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville, et on le sait, l'argile mollit. Eh oui. Alors tous les civils, vous, sanglot de reptile aux gémonies. C'est génial! On le lynche sur la place publique. On piétine le pacte civique. Ah, tu fais moins le mal, sanglot de reptile. Maintenant que t'es plus derrière ton écran, t'as vraiment pas l'air si grand. Essaye pas de t'enfuir avec tes talonnettes à 4000 poules qui servent plus à rien maintenant. Nous aussi on peut en faire des euros sur ton dos. On jette des pièces comme sur l'écran codivivarium. Ah, tu fais moins le mariole. Tout ça pourquoi?
Chatterton, Écran total, un disque choisi par Djoubaka.
France Inter. Une semaine en France.
Toujours en compagnie du politologue Brice Teinturier. On va parler un petit peu de vous maintenant, Brice Teinturier. On va se demander comment on devient directeur général délégué d'Ipsos. Vous avez 58 ans, vous êtes auvergnat, né à Clermont-Ferrand. Vous avez grandi là-bas jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis vous êtes monté à Paris, comme on dit, pour faire des prépas littéraires. Et puis vous avez fait Sciences Po, Paris. D'où vient ce goût de la politique, Brice Teinturier ?
Ah, je l'ai eu très tôt. Là, pour le coup, c'est vraiment une névrose ou un travers très, très profond, puisque j'ai toujours été intéressé dès l'âge de presque 12 ans, 10-12 ans, par ces questions-là. Je pense qu'il y avait une ambiance familiale. J'ai grandi dans une famille qui avait été très marquée par la guerre, très marquée par la déportation d'un grand-père. Mon père avait été arrêté également. Ma mère et sa famille avaient été très marquées par la Shoah. Et du coup, je crois que j'ai véritablement absorbé tout cela comme du papier buvard et que très vite, je me suis rendu compte que les questions politiques, les questions de démocratie, les questions de régime étaient des questions absolument essentielles et qu'on pouvait basculer assez vite dans la barbarie ou au contraire, trouver des façons de réguler les conflits qui sont légitimes, qui sont nécessaires, qui existent dans les sociétés, mais de les réguler pacifiquement. Et on parlait politique chez moi, on s'engueulait d'ailleurs parfois politique, en tous les cas, c'est quelque chose qui m'intéressait.
Alors que c'était pas forcément des gens qui étaient là-dedans, hein, dans votre famille. Votre père était professeur de chirurgie.
Oui, c'était chirurgie un orthopédiste qui avait comme obsession de remettre les gens debout, les gens droits, de leur permettre de marcher notamment. Et je trouve que c'était une belle obsession, si je puis dire. L'autre aspect aussi qui m'a, je crois, attiré vers ces questions, c'est tout simplement la philo. Moi, j'ai hésité à une époque entre la médecine et la philo, et puis j'ai fait une terma après avoir fait une première C. Et ça a été pour moi quelque chose de formidable. J'ai eu de grands professeurs extraordinaires, et j'ai eu le sentiment, à tort ou à raison, mais de comprendre, de mieux comprendre le monde, un certain nombre de choses, à travers des textes et des concepts de philo. Donc, bon an, mal an, la philo politique, la sociologie, et tout ça va ensemble, et c'est comme ça qu'on finit par atterrir un jour dans des instituts de sondage.
Et puis, c'est pas plus mal de réfléchir à tout ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous répondez, Brice Teinturier, à ceux qui disent que vous, les instituts de sondage, vous, les sondeurs, vous faites l'opinion, que vous influencez les électeurs, d'abord avec vos questions, notamment là, pendant cette campagne, en leur parlant délinquance, immigration, alors que c'est pas le sujet. Qu'est-ce que vous leur répondez d'une manière générale.
Ce qui me peine un peu dans ce type de critique, c'est que notre métier, à la base, c'est rigoureusement l'inverse. Notre métier est un métier d'écoute, de mesure, de prise en compte et de compréhension. Donc il y a cette volonté, en tous les cas, qui est véritablement de ne pas interférer, de au contraire, être en capacité de bien comprendre ce qui se passe et de restituer ce que pensent les Français. Alors, il y a aussi une autre réalité, et je ne suis pas naïf non plus. La production de ce type d'analyse a des effets politiques, a des effets dans le débat public. Ce que je réponds, c'est que n'importe quel Français a le droit de prendre en compte ou de ne pas prendre en compte cette information qui est donnée par la publication des sondages d'opinion. Et que ce n'est pas dégradant, je considère que ce n'a rien de dégradant, au contraire, qu'un électeur éventuellement même revisite son vote parce qu'il apprend qu'il pourrait y avoir, et bien ici par exemple, c'est d'actualité, une bascule d'une région en faveur du Rassemblement National. S'il décide de modifier son vote en tenant compte de cette information qu'est le sondage, en quoi cela serait-il un acte politique dégradé? Je crois au contraire que cela montre une implication, une écoute, etc. Donc il y a des effets. Qu'est-ce que ça doit renforcer chez nous? Une exigence accrue de fiabilité, de sérieux dans la façon de collecter l'information. Mais ce n'est pas les sondages qui font l'opinion publique, c'est l'opinion publique qu'on mesure par les sondages. Cette mesure peut avoir des effets ensuite dans le débat public, j'en suis évidemment totalement conscient.
Est-ce qu'il y a des sondages que vous refusez?
Oui, bien entendu. Ça nous arrive de refuser des
sondages. Parce que les questions vous paraissent tordues, dangereuses,
alors les questions,
bizarres.
D'abord, ce sont nous qui les rédigeons, Dieu merci, parce que ce n'est pas si simple que ça d'écrire une question sans qu'elle soit biaisée. Donc ce sont des professionnels, des gens qui font ça dans nos instituts, dans nos équipes, moi-même, mais beaucoup d'autres, qui travaillons sur le questionnaire. Mais on peut refuser des sujets parce qu'ils seraient justement totalement décalés et que là, ils produiraient des effets tout à fait pervers. Le sujet sujet se pose très souvent à propos des intentions de vote présidentielles. C'est un exemple parmi mille autres. Mais puisque là aussi, on en parle depuis quelque temps, moi je considère par exemple qu'aujourd'hui, faire des intentions de vote présidentielles avec Édouard Philippe comme candidat, alors même qu'il n'a absolument pas dit qu'il pouvait être candidat, c'est fabriquer quelque chose d'artificiel. Avec Éric Zemmour qui franchit un pas supplémentaire, là ça devient plus légitime. Donc on essaye de ne pas faire n'importe quoi.
Il y a la politique, mais votre champ d'étude est vaste, vous vous intéressez à tout. Vous avez même fait un sondage Ipsos sur l'Euro de football. J'ai vu que 2 Français sur 3 prédisent une victoire de l'équipe de France. Alors on verra bien ce qu'il en est. On va arriver à présent aux bonnes ondes du vendredi, et je fais le lien avec le football, parce que c'est un sujet qui nous a tous interpellés. Le malaise cardiaque du joueur danois Christian Eriksen, samedi dernier à Copenhague, en plein match de l'Euro. Il a pu être ranimé à même la pelouse. Cet épisode vient nous rappeler à quel point il est nécessaire de réagir le plus vite possible dans un tel cas. Les premières minutes sont essentielles, mais trop peu de gens sont formés aux gestes qui sauvent. En France, 20% seulement. Bien, figurez-vous, Brice Teinturier, que suite à ce qui s'est passé samedi, certains ont décidé d'aller se former au premier secours. C'est un reportage de Julie Paco avec la protection civile parisienne.
Ah, venez. Ah, ça fait mal. Ça saigne, ça s'arrête pas.
Okay. Tu fais un pansement compressif qui est plutôt pas mal fait. T'as eu du mal au moment du nœud, bon après tu t'es rattrapé. Et puis après, il y a l'alerte au secours qui est structurée. Tu fais une compression manuelle, ça s'arrête, tu rassures la victime. T'as vu comment rassurer la victime, c'est pas évident. C'est pas évident à ces moments-là de trouver les mots, quoi dire. On se dit on va avoir plein de sujets de conversation, on s'arrête pas sur ça, on préfère s'arrêter sur les gestes de secours.
Ils sont ainsi une dizaine de jeunes d'une vingtaine d'années, essentiellement en service civique, à suivre cette formation PSC1 pour prévention et secours civique de niveau 1. 7 heures d'apprentissage sous la houlette de Noam Sedbon, formateur à la protection civile de Paris.
On forme beaucoup de services civiques puisque c'est intégré à leur formation. Donc c'est un public régulier, on en a quasiment tous les jours. Et sur ces 1 an et demi passés, sachant qu'on n'avait pas de formation grand public, c'était quasiment notre seul public. Maintenant que les formations grand public ont repris, on a un pic de formation. On a des sessions qui sont quasiment pleines tout le temps. Des personnes qui sont obligées de se mettre sur liste d'attente. Et puis bon, il y a des formations qui sont régulièrement ouvertes. C'est une journée, donc c'est voilà, on peut les ouvrir. Et la demande est forte, surtout quand il y a des événements majeurs. Là, voilà, lié au massage cardiaque, il y a un pic de demande de personnes qui se disent ah voilà, le Danemark, ils ont su réagir parce que c'est un pays qui est fortement formé. En France, eh ben, on n'est pas 100% formé, on ne sait pas toujours réagir. Eh ben, on va aller voir ça et même les autres types d'accidents. Parfois, ça peut être lié à des situations personnelles. Je me suis retrouvé il y a 2 semaines avec une personne de 75 ans. Son mari avait fait un malaise et elle ne savait pas comment réagir. Eh ben, elle s'est dit, je vais venir me former, même à 75 ans.
Hémorragie, brûlure, obstruction des voies aériennes, traumatisme, perte de connaissance, AVC, infarctus. Il faut apprendre à reconnaître les différents types de malaise, distinguer les urgences potentielles des urgences vitales et acquérir les réflexes pour dispenser immédiatement les gestes de premier secours tout en alertant et en s'adaptant à la victime, ici un nourrisson.
Ah, excusez-moi madame, vite, venez, j'ai mon fils qui était là, il joue avec son frère, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Est-ce qu'il respire ?
Depuis tout à l'heure, il a un peu de mal à respirer, mais ça n'a pas l'air d'être total, il a un peu du mal à respirer. Mais.
Il a avalé un Lego. Je vais essayer d'expulser l'objet qu'il a avalé.
Ok, d'accord.
Alors, allez-y, attendez, fais confiance. Je réfléchis pendant 2 secondes.
Chez le nourrisson, il va y avoir un élément très important à prendre en compte, ça va être sa tête. Pourquoi sa tête va être à prendre en compte? Parce qu'il ne la tient pas. Donc, on va bien l'attraper au niveau de sa tête avec notre main, comme une cuillère. Et là, je vais lui mettre tête vers le bas, penché sur ma cuisse, jambes tendues, tête vers le bas. Je vais lui attraper la bouche en mettant les doigts de part et d'autre, comme ceci. Et là, je vais retourner l'enfant sur mon autre jambe que je tends, bras tendu, donc vous voyez, sur l'autre bras, tout bouge. Et toujours pareil avec le talon de la paume de la main, entre les deux omoplates, 1, 2, 3, 4, 5.
Savoir aider, secourir et déconstruire aussi quelques idées reçues.
Souvent quand je leur pose la question, quel est le risque face à une perte de connaissance? Ils me répondent, avaler la langue. On ne peut pas avaler sa langue, la langue chute dans le fond de la gorge. Face à une brûlure, mettre du dentifrice, mettre de la purée de pommes de terre. Ça fait partie des idées reçues qui... c'est surtout pas.
La trachéotomie,
c'est ça. Ne jamais planter un humain avec un stylo.
Mais l'atelier que beaucoup attendent ici, c'est la réanimation cardio-pulmonaire.
Souvent, beaucoup viennent, et c'est normal, mais ils viennent pour l'arrêt cardiaque, ce qui est très bien, et c'est important de s'y former, mais... L'arrêt cardiaque, on ne va pas y être confronté tous les jours, alors que tous les accidents domestiques, ça va représenter quand même, ça représente 70% des interventions de secours aujourd'hui.
En France, 50 000 personnes succombent précocement à un arrêt cardiaque chaque année, car sans prise en charge, il est à 90% fatal. Or, chaque minute de massage cardiaque augmente de 10% les chances de survie de la victime.
L'objectif, c'est que les compressions thoraciques se fassent sur un rythme de 100 à 120 compressions par minute. Donc vous voyez, c'est intense. Il ne faut pas être en dessous de 100, pas être au-dessus de 120. Pour ça, vous pouvez vous chanter une chanson dans la tête. Alors, la chanson la plus connue, qu'on dit depuis très longtemps, Staying Alive.
Les Bee Gees dans la tête et surtout de la confiance en soi, car 7 fois sur 10, c'est un proche qui est victime d'un malaise. Et seule la formation peut alors nous permettre de surmonter notre panique pour franchir le cap et pratiquer les gestes de premier secours.
Allez, c'est bon pour moi.
Reportage de Julie Paco. N'hésitez pas à aller vous former. Il y a des tas d'endroits, la protection civile, les pompiers, la Croix-Rouge et j'en passe. C'est une forme d'engagement civique, hein, Brice Teinturier.
C'est le souci de l'autre. C'est ça qui est tout à fait remarquable.
Et vu l'éclatement de la société, ça fait pas de mal.
Exactement. Et on parle beaucoup d'individualisme et c'est vrai, mais on voit qu'il y a des gens, qui s'intéressent aux autres, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils font et qu'ils veulent aider. Et cet exemple, il est magnifique. Il y en a beaucoup d'autres comme cela dans le pays. Il faut les mettre en avant, les célébrer et ne pas s'enfermer dans cette espèce de culture aussi où tout irait mal en France, ce n'est pas vrai. Il y a aussi des tas d'énergie et des tas de mise en relation des gens qui veulent aider, se sentir utile et aider. Et c'est fondamentalement ce dont une société, je crois, a besoin.
Et pas chacun dans son coin, dans son couloir, dans son réseau social. Voilà. Comment ça va se passer dimanche, Brice Teinturier? Vous avez des centaines d'estimateurs qui seront sur le terrain pour
Alors, on a des centaines de gens qui sont dans des bureaux de vote, qui vont nous faire remonter les premiers bulletins dépouillés. On est sur plus de 820 bureaux de vote, les bureaux de vote qui ferment à 18h, à 19h, à 20h, tout cela remonte auprès d'équipes d'estimateurs, passe dans des modèles informatiques qui calculent la déformation due à ce qui nous remonte à la nature du bureau de vote, et c'est comme ça qu'à 20h, alors même que les bureaux de vote viennent de fermer, on arrive à donner ce résultat. On joue sur le décalage de fermeture des bureaux de vote de 18h, de 19h et de 20h, et on analyse les dynamiques, les écarts, et on modélise tout cela. Finalement, c'est énormément d'énergie, énormément de gens, souvent pour aboutir à un chiffre à 20h.
C'est quoi le cauchemar du sondeur? C'est de passer à côté de quelque chose d'essentiel?
Il y a deux cauchemars pour des gens comme nous à la veille d'un scrutin. Il y a d'abord l'idée, est-ce que ce qui sortira du scrutin est assez proche ou assez éloigné de ce qu'on avait dans nos enquêtes d'opinion? Ça, c'est toujours quand même un grand moment, celui de la vérification. Et puis l'autre cauchemar, c'est quand vous avez deux listes ou deux candidats que vous n'arrivez pas à départager, qui sont réellement à un niveau extrêmement proche. C'était le cas en 2015 dans certaines régions. Moi, je me souviens très bien de la Normandie, qui s'est joué une poignée de voix, le centre Val-de-Loire aussi. Et là, vous avez la limite des modèles, la limite des remontées, parce que ça se joue à 5000 voix.
Donc ça, c'est le deuxième compliqué. Tour qui sera peut-être plus compliqué. D'ailleurs, c'est quoi le délai pour le dépôt? C'est le mardi pour les listes
Pour les listes, tout à fait, pour les accords, les fusions. Et le second tour peut donner lieu aussi à parfois des choses extrêmement serrées. Mais la plupart du temps, c'est davantage au premier tour. Vous pouvez avoir une très grande compétition. Là, on aura probablement des listes qui seront à la limite de la qualification, de la barre des 10%. Donc est-ce que c'est 9-8, est-ce que c'est 10-2? Vous annoncez quand même quelque chose d'important, la liste est qualifiée ou n'est pas qualifiée. Donc ça fait partie des grands moments.
Ah ben, je vous souhaite bon courage d'ici là. Merci mille fois, merci Brice Teinturier. Et puis j'en profite pour donner rendez-vous à ceux qui nous écoutent, parce que dimanche, à partir de 19h20, avec Yael Gauze et tout le service politique de France Inter, il y aura une soirée spéciale, élections régionales et départementales, en partenariat avec Ipsos.